Frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que cette heure que nous allons passer ensemble soit pour chacun d'entre nous un temps de paix, un temps d'écoute et de louange, un temps où nous apprenions à vivre en communion avec Jésus de Nazareth et avec tous nos frères et nos sœurs, connus ou inconnus, proches ou lointains. Puisse alors ce culte être l'occasion pour chacun d'entre nous de rencontrer celui qui a dit à ses disciples et qui nous dit aujourd'hui « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, tu nous rejoins en Jésus-Christ par ta parole et par ton esprit. Pour la vie si menacée et si belle, pour ce monde si fragile et si beau, nous te louons, Seigneur. Pour ce dimanche qui nous dit ta résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons, Seigneur. Pour ton évangile d'amour et de paix, pour ta volonté d'être avec nous et de nous associer à ton œuvre, nous te louons, Seigneur. Et parce que nous pouvons t'aimer et aimer sur cette terre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre frère, nous te louons, Seigneur. Écoutons, frères et sœurs, comment Dieu veut être servi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Amen. Oh, parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur, car enfin je le suis. Je suis, je veux l'être, et marche dans ta route, et les jours et les nuits. Nous confessons notre faute par les paroles suivantes. Je crois, oui, je crois qu'un jour qui sera le tien, je m'avancerai vers toi, mon Dieu, avec mes pas titubants, avec toutes mes larmes dans mes mains, et ce cœur merveilleux que tu m'as donné, ce cœur trop grand pour moi, puisqu'il est fait par toi. Un jour, je viendrai et tu liras sur mon visage tous mes échecs, toutes mes peines, et tu verras toutes mes fautes. Devant les hommes, j'en serai humilié, mais devant toi, je serai aimé. Un jour, mon Dieu, je viendrai vers toi avec mes rêves les plus fous, et dans mon incroyable résurrection, je te crierai ces paroles venues du plus profond de moi. Père, j'ai tenté d'être un adulte, et je ne suis que ton enfant. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de grâce et de bénédiction. Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur nous aime dans le tourbillon de notre vie. Dans nos nuits de tâtonnement et d'hésitation, il nous regarde et il nous pardonne. Dans nos heures de peine ou de peur, il nous comprend et il nous console. Dans nos matins d'espoir, il nous encourage, il nous stimule et il nous dit d'avancer toujours plus. Dans le tourbillon de notre vie, il est là, notre Seigneur et notre Dieu. Dans un monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et qui nous appelle à une vie nouvelle. Alors, frères et sœurs, que tous ceux qui se repentent sincèrement dans la foi reçoivent de la part du Seigneur l'assurance de leur pardon. « Mon enfant, dit le Seigneur, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Amen. » Je vous invite à rester debout pour confesser ensemble la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père, qui donne sens à toutes choses visibles et invisibles. Il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est la vie et la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Je crois en l'Esprit Saint, qui a parlé par les prophètes, les apôtres et les réformateurs, et donne la paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Je crois en une seule Église universelle et la communion des âmes dans la foi, l'espérance et la charité. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour, plus fort que la mort, et j'attends la vie éternelle. Amen. Avant de lire les Écritures, nous nous recueillons. Ô Dieu, notre Père, nous te prions pour que ton esprit illumine nos cœurs, afin qu'à nouveau nous découvrions ce matin à quelle espérance tu nous appelles et quelle grandeur s'attache à ton nom. Fais que la prédication de ta parole rende présent parmi nous Jésus-Christ, lui qui est parole vivante, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai pris aujourd'hui pour guider notre prédication un seul texte très court et très important d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et alors, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et ils ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Frères et sœurs, la fleur fane, l'herbe se dessèche, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. « Frères et sœurs, chers amis, imaginons un peu l'infinie détresse vécue par ces femmes face au tombeau vide. Non seulement Jésus de Nazareth est mort sur la croix, mais en plus, elle ne peut plus voir son corps comme elle l'aurait tellement souhaité. Le Jésus qu'elle connaissait et aimait avait disparu. Où était-il passé? Et surtout, où et comment le rejoindre? C'est alors que résonnent les paroles du jeune homme vêtu de blanc. Ces paroles qui tournent ces femmes aussitôt vers un avenir quelque peu incertain, problématique. Il n'est point ici, il vous précède en Galilée. Alors, il est dit, elles s'enfuirent toutes, car la peur et le trouble les avaient saisies, nous laissant nous-mêmes aujourd'hui face à cette énigme. Jean en profite pour dire que ces femmes dont on dit qu'elles n'avaient pas parlé, ont parlé, bien sûr, faute de quoi nous ne serions pas dans cette hypothèse de travail. Au-delà de ça, je saisis aussi l'occasion pour souligner que tous les versets qui viennent après ont été rajoutés par la suite à l'évangile de Marc. L'évangile de Marc se termine bien sur cette peur, sur cette épouvante des femmes, après les paroles du jeune homme vêtu en blanc. Je crois qu'il est important d'avoir ces éléments-là en mémoire. Donc cet étrange message donne singulièrement à réfléchir. En effet, la Galilée, une région du nord d'Israël, est surtout connue à l'époque comme étant le pays fréquenté surtout par des païens. C'est une région que les Juifs ont tendance à éviter, car ils considèrent quelque peu impure. Cependant, c'est aussi une région que Jésus a parcourue et qui est donc marquée de son empreinte, de sa mémoire. Or, c'est précisément dans ce pays difficile que ses disciples sont invités à se rendre pour rencontrer le ressuscité. Ainsi, non seulement ces malheureux ont sombré dans le désespoir le soir de la crucifixion, mais en plus, il va falloir se rendre maintenant dans une contrée inquiétante. Cependant, et regardez de plus près, il s'agit bien d'une bonne nouvelle. Certes, la lointaine Galilée, l'étrange Galilée, c'est pour les disciples de Jésus, comme pour nous-mêmes aujourd'hui, symboliquement, le pays qui se trouve au-delà des paysages familiers. Mais à ses amis d'autrefois, comme nous aujourd'hui, c'est au-delà des horizons connus précisément que le Christ nous donne rendez-vous. Et peut-être dans un premier temps, tout d'abord au-delà des horizons de notre passé. Car s'il est un pays que nous croyons connaître par cœur et qui nous rassure, c'est avant tout le passé, notre passé à chacun et à chacune. Passé heureux, qui résonne toujours avec joie dans notre mémoire, empreint en même temps de nostalgie, mais aussi épisode douloureux du passé, avec des blessures qui ne cicatriseront jamais. Toujours est-il que ce passé est connu. Donc ce passé, de chacun d'entre nous, nous a profondément façonné. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'il s'agisse de notre conception de l'existence, de nos désillusions, de nos préjugés, de notre ouverture au monde ou de notre réserve devant ce que la vie nous apporte d'inattendu. C'est donc au-delà de ce passé que le Christ ressuscité nous attend. Mais quitter le pays du passé rassurant pour aller vers les contrées du présent et de l'avenir, voilà qui ne va pas forcément de soi. Car l'aventure nous donne toujours le vertige. Cependant, c'est possible, parce que Jésus-Christ nous y attend, il nous y invite, il nous précède en Galilée. Cela signifie avant tout, frères et sœurs, que Jésus n'est pas enfermé derrière nous dans un passé lointain. Il ne s'agit pas ici pour nous de nous prononcer sur les modalités de la résurrection, sur laquelle Le récit de Marc est d'ailleurs remarquablement sobre. Mais il s'agit de comprendre que dans les évangiles, le Christ, après sa mort sur la croix, n'est pas réduit à un cadavre, mais qu'il demeure à jamais le vivant par excellence. De même qu'un texte biblique, quel qu'il soit, ne saurait être prisonnier de l'époque à laquelle il a été écrit. De même, Jésus de Nazareth n'appartient pas à un passé poussiéreux englouti par les siècles. Pour le rencontrer, il ne faut pas regarder derrière nous, mais devant nous, il nous précède. Ce renversement historique de notre regard désigne véritablement pour nous la réalité de la résurrection. J'entends encore, et mon ami le pasteur Laurent Gagnobin l'entend aussi, la voix du pasteur Georges Marchal, l'un des grands pasteurs du foyer de l'âme, dont plusieurs d'entre nous ont eu le bonheur d'entendre les prédications, nous dire, je cite le pasteur Marchal, « Jésus marche en tête de notre longue caravane humaine ». Caravane souvent de souffrance, comme celle vécue par le Christ, mais aussi caravane d'invincible espérance vers un monde plus juste et plus fraternel, monde qui nous a invité à construire par ses paroles et par ses actes exemplaires. Réaliser notre humanité dans sa plénitude, c'est aller tous ensemble vers ce Dieu qui, en Jésus-Christ, nous précède sur le chemin de l'histoire. Cette route que nous parcourons en commun avec les hommes et les femmes de bonne volonté unit pour nous la foi, l'espérance et l'amour sous toutes ses formes. Mais un autre pays familier qui peut être un obstacle à la rencontre du ressuscité est notre présent. Non pas que Dieu ne soit pas présent ici et maintenant, comme chaque jour de notre vie auprès de nous. Mais dans le fond, quelle conscience exacte, quelle conscience précise avons-nous de la présence de Dieu dans nos personnes, dans notre relation à l'autre, dans notre existence, lorsque nous sommes pris, emportés par le tourbillon de la vie, quand l'agitation, la tension de la vie quotidienne, les soucis viennent nous accabler et que nous avons l'impression de ne pas avoir le temps d'accomplir tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous voudrions faire. Là aussi, ne faut-il pas aller plus loin ? Ne faut-il pas creuser plus en profondeur pour avoir une chance de ne pas manquer les rendez-vous ? Oser être disponible, oser nous arrêter, oser faire une pause et ne pas craindre d'entreprendre un voyage au cœur de soi pour mieux s'ouvrir aux autres. Car là aussi, au-delà des apparences, il est une Galilée intérieure dont le Christ ressuscité n'est pas absent. Enfin, entre le passé et le présent, il est un dernier pays duquel il faut sortir si nous désirons vraiment connaître le ressuscité. Ce pays, c'est celui d'un certain matérialisme qui peut être un réel obstacle pour celui qui l'érige en critère absolu, faisant abstraction des sentiments, des mouvements du cœur, de notre spiritualité et de notre liberté. Cette conception des choses peut être une vraie barrière, un obstacle, notamment quand elle se focalise sur la recherche de preuves quant à la résurrection de Jésus de Nazareth. Comme cela serait si facile, en effet, de croire, s'il ne pouvait démontrer preuve matérielle à l'appui, que Jésus est corporellement ressuscité. Or, très franchement, je ne pense pas qu'il faille s'approcher au tombeau vide, comme une réalité matérielle ou comme une preuve de la résurrection. Du reste, les évangiles ne nous disent rien de la résurrection en tant que telle. On la voit dans d'admirables tableaux, mais nulle part elle est décrite dans les évangiles. Dans les évangiles, ils ne nous disent pas « voilà comment Jésus est ressuscité », mais ils nous disent « Jésus est ressuscité ». J'emprunterai aussi d'ailleurs une parole de Laurent Gagnobin à ce propos qui dit très justement que l'on parle à tort des récits de la résurrection, puisqu'il n'y a pas de récit de la résurrection, et que l'on devrait parler plutôt de la proclamation de la résurrection, ce qui prend un sens en effet très différent. Du reste, dans ces épîtres qui, comme vous le savez, ont été rédigées avant les évangiles, l'apôtre Paul ne parle jamais de tombeau vide. Il en est de même pour l'apôtre Pierre dans les Actes des apôtres. Alors finalement, quand le jeune homme en blanc dit « il n'est pas ici », il veut faire comprendre aux femmes que ce qu'elles cherchent vraiment ne doit pas être un cadavre, mais qu'il faut chercher et trouver Jésus parmi les vivants dans une contrée étrange, sinon étrangère. Le tombeau vide n'est alors plus la source de notre foi, mais sa conséquence, qu'elle devient vidée de toute réalité, de tout intérêt et de toute substance. D'ailleurs, vous le savez comme moi, les disciples n'ont jamais eu de preuve incontestable de la résurrection corporelle de Jésus. En effet, ils ne l'ont jamais reconnu dans une continuité, mais dans des instantanés, sous les traits d'un jardinier au petit matin, ou au bord d'un lac, ou encore sous les traits d'un pèlerin partageant le pain le soir dans une auberge, ou enfin par sa présence mystérieuse dans la chambre haute où il avait célébré le dernier repas. De plus, les évangélistes n'hésitent pas à affirmer que certains disciples doutèrent. Mais précisément, une impression, un sentiment, un signe, contrairement à une preuve, renvoie à notre liberté, je l'évoquais tout à l'heure. Car nous pouvons y voir, si nous l'acceptons, ce que Dieu nous donne à entendre. Car des signes de la présence du Christ ressuscité, il y en a de très nombreux pour ceux qui sont souvent attentifs à ce qui se passe autour d'eux. D'où vient par exemple à certains la sérénité de la douceur, de la bienveillance, de la charité envers et contre tout? D'où vient la mystérieuse capacité de pardonner, chose qui est loin d'être facile? D'où vient la capacité de renaître malgré les épreuves, d'aider les autres aussi à renaître? Oui, chaque scène de la vie de Jésus nous dit cette puissance de vie, son acharnement à relever l'être humain comme acteur de son propre miracle envers et contre la maladie, les handicaps, les préjugés, la haine, la jalousie, et aussi envers et contre lui-même quand il le faut. Certains seraient-ils tout simplement plus forts que leurs semblables, mieux armés pour résister aux tempêtes et aux difficultés de la vie? On pourrait le croire. Personnellement, je vois plutôt dans tel signe le miracle du ressuscité qui nous aide sans cesse à faire toutes choses nouvelles. Cette parole de Pâques devient alors une promesse pour chacun d'entre nous. Plus encore qu'une promesse, une force de vie qui nous pousse toujours en avant. Il nous précède en Galilée, c'est-à-dire dans des lieux à la fois familiers et différents, où l'on ne pense pas toujours à le chercher ni à le trouver, sur nos lieux de travail ou de vacances, en famille, entre amis ou entre voisins. Derrière un visage, c'est peut-être Jésus qui nous fait signe. Dans une nuit de découragement, c'est peut-être lui qui vient nous surprendre. Le Christ de Pâques n'est pas celui qui nous a quittés, mais celui qui ne cesse de venir, de surgir, sans même qu'on l'attende. Alors, notre vie s'arrondit de tout ce que sa présence suscite en nous. Il nous précède, il est toujours devant nous, comme un chemin ouvert par-delà nos impasses. Il nous montre de nouveaux commencements possibles, là où nous croyons que tout était définitivement perdu. Une espérance à la fois fragile et invincible, comme la lueur d'un phare dans la tempête. Pâques nous dit la vie ouverte sur l'espérance, une espérance à la fois fragile et forte, comme une lumière toujours conquise sur les ténèbres. Émerveillement de Pâques, la parole du ressuscité remet toujours la vie debout et dit à chacun « Tu es aimé d'un amour éternel que rien ni personne ne pourra t'enlever. Fort de cette promesse, tu peux repartir, tu peux renaître. Partout, cet amour te donnera toujours la capacité de ressurgir, voire de travailler à ton tour à réveiller la vie chez les autres. Voilà notre vraie vocation de chrétien, devenir acteur de Pâques, ouvrier de la résurrection. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Alors, frères et sœurs, chers amis, puisse cette magnifique fête de Pâques que nous avons vécue il y a quelques semaines nous faire avancer toujours plus loin que le pays de notre passé disparu, plus loin que l'horizon du pays de notre présent, parfois bouché, parfois obscur, plus loin que les limites de notre matérialisme habituel et si confortable. Assurément, le Christ nous attend, vivant au pays de la liberté, au pays d'une vie pleine de sens, pleine de joie, pleine d'amour. La phrase « Il n'est pas ici, il vous précède en Galilée » fait du christianisme un optimisme résolu et inconditionnel, un élan individuel et collectif. Je pense à cet instant à l'admirable film de Pasolini, l'Évangile selon saint Matthieu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Il passe trop rarement à la télévision, parfois dans des ciné-clubs, on peut aussi se le procurer en DVD. Pasolini, je le rappelle, était un marxiste convaincu et un athée tout à fait convaincu également. Et ce film est un miracle et démontre que l'esprit, précisément, souffle où il veut. Donc, dans ce film, dans la magnifique scène finale, Pasolini nous montre, à son sens, ce qu'est la résurrection, et je partage cette vision qu'il a. Face au tombeau vide, dans un élan impétueux, irrésistible, délivré de la tristesse de la mort, les femmes qui suivaient Jésus, les disciples, mais aussi des hommes et des femmes du commun, des paysans avec leurs outils, des enfants, courent à toute vitesse, s'élancent avec le sourire aux lèvres pour le chercher et pour le rencontrer. Frères et sœurs, chers amis, nous savons que l'Éternel a donné aux apôtres la vision du Christ ressuscité, le relevant ainsi d'entre les morts pour entrer dans une vie sans plus de limites. Demain, dans un avenir qui n'appartient qu'à Dieu, nous serons à notre tour relevés de nos multiples tombeaux. Oui, aujourd'hui, l'Éternel est à l'œuvre. Lui qui a relevé Jésus d'entre les morts nous relève et nous relèvera toujours. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que dans nos vies, le Seigneur soit à l'œuvre contre les forces des ténèbres, contre toutes les puissances mortifères. Oui, le Christ nous fait vivre de sa vie dès maintenant. Ce que nous deviendrons appartient à Dieu, mais dès à présent, avec le ressuscité, nous sommes vivants et nous le demeurerons pour l'éternité. Amen.
Alors d'abord, un rappel, comme tous les dimanches, vous trouverez à la sortie la collecte de produits alimentaires et de produits d'hygiène. Pour information, le conseil presbytéral se réunit ce mardi à 20h, mais en visioconférence bien sûr, puisqu'on ne peut pas encore se réunir jusqu'à 23h en présentiel, mais ça viendra. Jeudi, il y a la pause spirituelle, hein, comme elle est traditionnellement le jeudi de 12h30 à 13h30, et elle ne fera pas relâche sous prétexte qu'on est le jeudi de l'Ascension. Ciel et Terre se réunit le samedi 15 à 10h30, mais également en visioconférence, puisque la jauge de 10 ne leur permet pas de se réunir encore en présentiel. Après, ils pourront être 5000, donc ça sera plus facile. Dimanche prochain, le culte à l'heure habituelle avec Dominique Hernandez. Samedi 22, un peu plus loin, il y a une célébration de l'Église verte à Notre-Dame d'Espérance, donc célébration œcuménique à 16h30 le samedi 22. Alors l'Église verte, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, c'est un mouvement qui est commun à beaucoup d'églises, et notamment l'Église catholique et l'Église protestante unie, qui veut décliner dans la vie des églises l'impératif écologique et donc de préservation de la création. La création, nous l'avons reçue, bon, il faudrait qu'on soit capable de la donner à nos descendants en bon état. Donc ça comprend des réflexions. Il y a un groupe de réflexion dans notre paroisse qui réfléchit à ce thème de l'Église verte. Et l'Église verte, c'est un mouvement national qui nous alimente en réflexion, en action concrète. Par exemple, trouver des moyens de consommer moins de papier ou des choses concrètes, mais aussi des choses plus théologiques, puisqu'il y a un lien entre l'impératif écologique et la conception que nous nous faisons de la création. Presque dans la même veine d'écologie, puisque c'est de l'économie circulaire, Vincent Fabre, dont vous savez qu'il propose très régulièrement des confitures à la sortie des cultes, souhaiterait récupérer des pots vides de façon à pouvoir alimenter l'économie circulaire. Donc une fois que vous avez mangé les confitures, si vous pouvez lui rapporter les pots, et puis vous les reprendrez pleins après. Voilà, et puis il y a, je crois, Dominique, qui a des annonces à faire en ce qui concerne l'entraide et le CASP. Donc je lui passe la parole.
Oui, on vous a déjà dit la semaine dernière et on vous le rappelle, le 30 mai, nous accueillons les personnes du CASP, non pas pour un déjeuner à table, mais pour un pique-nique préparé la veille. Donc, en principe, il y a un grand tableau sur lequel vous pouvez vous inscrire à la sortie du temple. S'il n'y est pas, je ne m'en suis pas assurée, je suis désolée, il y était la semaine dernière. N'hésitez pas à envoyer votre mail et votre téléphone à Dominique Hernandez pour vous investir soit dans la préparation d'une salade ou d'un gâteau au chocolat, soit dans la préparation des sacs le samedi 29 ou dans la distribution le dimanche 30. Merci. Le dimanche, ce sera après le culte. Donc, on termine la préparation de 11h30 à 12h15. On accueille de 12h15 à 13h30. Donc, sur le tableau, il y a deux créneaux, parce qu'il y a peut-être des gens disponibles jusqu'à 13h et d'autres disponibles un peu après 13h. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Non, il n'y en a pas.
Nous nous unissons dans la prière pour tous ceux qui sont confrontés à la douleur et à la mort comme tu l'as été, Seigneur Jésus. Nous te prions. Pour tous ceux qui te donnent un visage, Seigneur, en répandant ton amour dans le monde entier, nous te prions. pour tous ceux qui te donnent des mains, Seigneur. En faisant le bien à l'égard de leurs frères et de leurs sœurs, nous te prions. Pour tous ceux qui te donnent une bouche, Seigneur, en prenant la défense des faibles, des opprimés, nous te prions. Pour tous ceux qui te donnent un cœur, Seigneur, en préférant les faibles aux puissants, nous te prions. Pour tous ceux qui donnent à ta pauvreté, Seigneur, le visage de l'espérance du royaume qui vient, nous te prions. Pour tous ceux qui souffrent en France et dans le monde de cette épidémie si inquiétante, Seigneur, nous te prions. Que nous retrouvions en toi tout l'amour et le courage nécessaires, non pas pour nous protéger des autres en nous repliant sur nous-mêmes, mais pour protéger les autres, pour aider les malades et leurs familles, pour ne pas les laisser sans assistance ou dans la solitude, coupés de toute relation sociale. Seigneur, nous te prions. Et maintenant, frères et sœurs, dans la communion de l'Église universelle, de nos frères catholiques, protestants, orthodoxes du monde entier, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, il faut des lieux où la musique de Dieu rejoigne le chant des hommes et des femmes, et où chacun puisse venir cueillir le soleil de la fraternité. Il faut des hommes et des femmes humbles et discrets, inspirés par l'Évangile et capables, avec tous les autres, de n'importe quelle langue, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle religion, de travailler à la mise en place d'une terre enfin humaine. Il faut des lieux où les esprits et les cœurs sont stimulés à passer les frontières et à s'ouvrir aux murmures et aux cris du monde. Il faut des lieux où, à travers des hommes et des femmes, l'Église devienne la présence réelle de l'amour de Dieu. Il faut des hommes et des femmes nourris de la parole du Christ et dont le seul souci est, à la suite de leur Seigneur, de mettre la lumière et la joie dans le monde. Amen. Frères et sœurs, chers amis, il nous faut maintenant sortir de ce temple qui n'est que le lieu d'une halte où Dieu et son peuple s'arrêtent avant de reprendre le chemin. Car nous sommes un peuple appelé à agir dans le monde par une parole toujours plus vivante. Car nous sommes le vrai temple du Seigneur, construit à la dimension de son amour. Et soyons sans aucune crainte, dans la vie de tous les jours qui nous attend au dehors, nous serons plus que vainqueurs, et la joie du Seigneur sera notre force. Alors, frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous donne sa paix. Qu'il tourne son visage vers vous et vous donne les vrais biens. Et que le Dieu de Jésus-Christ, dont l'amour surpasse toute intelligence, vous enveloppe et vous accompagne, vous, vos foyers et vos bien-aimés, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité, allez dans la foi en l'Éternel, dans l'espérance de son royaume et dans l'amour de votre prochain. Amen.